Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va découvrir comment moins stresser au travail. Je m'entretiens avec Lise Mourier qui est sophrologue et hypnothérapeute. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et plus spécifiquement de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre au moment présent. Dans ces épisodes, je parle de méditation, mais pas seulement, j'adresse en effet tout ce qui peut nous aider à vivre davantage en conscience. Que ce soit à travers des épisodes solo ou des épisodes interview comme celui-ci, on explore les bienfaits de la connaissance de soi. Pour recevoir les meilleurs épisodes et pour être informé des prochains thèmes, il vous suffit d'aller sur le lien simple à retenir, tameditation.com, tameditation tout attaché.com. Ça vous permettra d'être informé des épisodes du podcast, mais aussi de recevoir l'accès à un mini cours gratuit d'initiation à la méditation. Donc je vous redonne le lien, tameditation.com. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Lise Mourier, qui est sophrologue et hypnothérapeute. Elle pratique dans le sud de la France, à Nice. C'est là où je l'ai rencontrée dans son cabinet pour faire cet entretien. Et on a exploré comment moins subir le stress au travail. Lise elle-même a travaillé dans le monde de l'entreprise. Elle a vécu le stress, elle a vécu un burn-out. Et dans cet entretien, elle nous parle de ce parcours, de comment elle a décidé de quitter ce monde, le monde de l'entreprise, pour s'orienter vers la sophrologie et comment aujourd'hui elle aide les personnes à moins subir le stress au travail. On explore différentes façons de mieux vivre les difficultés et les contraintes que l'on peut avoir dans notre activité quotidienne. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet entretien avec Lise Mourier. Alors Lise Mourier, bonjour.
Bonjour.
Merci de participer au podcast.
Merci de m'avoir contacté.
Alors Lise, tu es sophrologue, hypnothérapeute,
oui.
Et tu travailles beaucoup avec des personnes qui souffrent de stress lié au travail.
Exactement.
Donc on va explorer ce sujet qui, je pense, concerne beaucoup de personnes.
Malheureusement, oui.
Et ce qui m'intéressait dans ton parcours, c'est que toi-même, tu es issu du monde du travail, tu as vécu ce stress. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours?
Comment je suis arrivée là?
Voilà, comment tu es arrivée à suivre cette voie?
Oui, bien sûr. Donc en fait, moi effectivement, je viens d'abord du recrutement, où je recrutais des ingénieurs en informatique et télécom pendant plusieurs années. Ensuite, je suis passée sur un poste RH généraliste dans une grande structure et on a implémenté 2 plans sociaux en 2 ans. Donc ça, effectivement, ça a été une période assez compliquée, remplie de stress et avec beaucoup, effectivement, beaucoup d'impact sur ma vie personnelle. Et donc, simplement, à un moment, je suis arrivée à un stade où je ne me reconnaissais plus dans mon travail. J'avais plus forcément la petite étincelle qui fait qu'on se lève le matin. Et puis, c'était surtout plus en phase avec mes valeurs. Donc, je me suis portée volontaire sur un plan de départ. Mon poste n'était pas impacté, mais je pensais que c'était le bon moment pour faire quelque chose qui me ressemblait davantage. Donc je me suis formée à la sophrologie dans un premier temps, dans un second temps à l'hypnose pour pouvoir aller un peu plus loin dans mes accompagnements. Et puis j'ai également fait une formation en PNL, où là voilà, c'est un accompagnement. Alors c'est pas forcément un outil qu'on voit, mais ça va être plus être dans la discussion avec les personnes, les amener à ouvrir leur champ de vision. Parce que notamment sur les problématiques de mal-être au travail, donc je fais de l'accompagnement de personnes qui sont en burn-out, entre autres, hein, après c'est tout ce qui est stress de manière générale, anxiété aussi, mais voilà, l'outil PNL est un outil qui peut amener, ne serait-ce que par la parole, lorsqu'une personne dit « je n'ai aucun choix, de toute façon je ne peux pas quitter mon job même si ça ne va pas », c'est simplement par des mots lui amener à changer son angle de vue pour lui montrer que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais qu'il y a une possibilité de...
D'accord. Donc on va explorer ces différentes méthodes, approches que tu utilises. Quand tu parlais du stress que tu as vécu au travail, comment ça s'est manifesté? C'était par rapport
à la hiérarchie par rapport à ton poste ou ce que tu devais faire?
Oui, alors c'est effectivement, on était sur un poste où on était entre la direction qui nous demandait des tâches et ensuite il fallait les implémenter donc sur les différentes équipes, les différents services. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu entre le marteau et l'enclume où on devait récupérer des informations, garder nous nos ressentis, nos sentiments, et puis les faire implémenter derrière. Donc c'est vrai que des fois, c'était pas forcément des choses qui étaient complètement en phase avec moi-même. Je ressentais plus ce que je disais tout à l'heure, la petite étincelle, et puis c'est surtout que je faisais des choses un peu à contre-cœur aussi. Voilà. Et puis on travaillait beaucoup sur de l'Excel, et pour moi, les ressources humaines, comme je l'entendais, c'était plus forcément sur du tableau Excel, mais c'était vraiment loin de ce pourquoi j'avais choisi ce domaine-là à la
D'accord.
base.
Et donc c'est lorsqu'il y a eu cette restructuration, ça a été une opportunité de mettre en
De
question cet
changer,
horaire, de
oui.
changer.
Alors on avait des très gros horaires de travail, des amplitudes horaires assez larges. Des fois, je travaillais aussi à la maison le soir et le week-end, ça arrivait. Plus en tant que RH, c'est vrai qu'on est un petit peu malheureusement les personnes qui sont pas bien viennent nous voir et nous expliquent leurs problèmes, les impacts que ça peut avoir si elles sont licenciées. Donc c'est vrai qu'on absorbe énormément de choses sans avoir forcément d'outils aussi derrière pour aider ces personnes-là. Donc c'est vrai que je me trouvais limitée et vraiment l'image du marteau et de l'enclume, c'est vraiment quelque chose qui est assez parlant.
D'accord. Et c'est ça qui fait finalement t'amener à
Exactement.
vouloir prendre cette année.
Ouais. Je me suis dit, je vais faire un métier dans lequel je m'épanouis, qui a du sens pour moi. Je pense que ça, c'était clairement un point qui était hyper important dans mon choix de deuxième carrière. J'aimais le domaine de l'entreprise, c'est pour ça, peut-être qu'on en parlera après, que j'ai encore un pied dans les entreprises. Mais par contre, c'est vrai que j'avais besoin plutôt d'accompagner les gens. Voilà, accompagner les gens. Et donc, c'est effectivement ce qui a fait que j'ai pris ce virage-là.
D'accord. Et maintenant, avec perspective, avec le recul,
Ouais.
quelle est les deux plus grandes différences qu'il y a entre ton travail actuellement et le travail en entreprise?
Déjà, je peux organiser mes horaires. Et c'est vrai que ça, en entreprise, on doit être à telle heure au travail et on partira à telle heure. Alors, en ce moment, il y a le télétravail qui se développe pas mal, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bien. Mais entre-temps, j'ai eu un petit garçon et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'être présente pour ma famille aussi et pour mon petit garçon. Donc voilà, je peux m'organiser, mais c'est surtout que je m'épanouis beaucoup plus parce que il y a un vrai sens dans ce que je fais. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne dans leurs problématiques, quand à la fin, je reçois simplement un merci, vous m'avez beaucoup aidé ou je me sens beaucoup mieux, pour moi, c'est 10 fois plus gratifiant qu'autre chose, quoi.
Alors, quel est ce glissement? Parce que c'est souvent, j'entends souvent ce que tu dis, c'est on commence un métier, une activité dans une entreprise où il y a de l'enthousiasme, il y a un certain plaisir, et au bout de quelques temps, parfois quelques années, il y a un désamour avec le travail, il y a du stress qui s'installe. Pourquoi ça concerne autant de personnes? Ça commence bien et après graduellement, il y a ce stress qui vient.
Alors, c'est effectivement un phénomène qu'on voit de plus en plus actuellement, les changements, les reconversions, les changements de carrière. Je pense que quand on est étudiant et qu'on démarre dans la vie, on n'a pas forcément d'idée précise de ce vers quoi on veut aller. Donc on fait des études. Je pense que beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'ingénieurs, de personnes qui ont fait des écoles de commerce, des grandes écoles, qui au bout d'un moment changent de voie. Peut-être simplement parce que les gens se lancent dans une carrière parce qu'il faut. Il n'y a rien de pire que le il faut. Il faut faire une école de commerce, il faut faire de grandes études, etc. Et puis à un moment, on se rend compte qu'on atteint peut-être un niveau de poste. Le statut social, il joue quand même pas mal, mais on atteint peut-être un niveau de poste qui convient. Et puis là, on se pose les vraies questions. Est-ce que vraiment, j'ai un certain âge, est-ce que vraiment je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que vraiment je trouve un sens à ce que je fais? Et très souvent, la réponse est non. Et en fait, le fait d'aller un peu contre soi-même finalement, ne pas être en accord avec soi-même, bah ça, clairement, ça crée de la frustration. Donc on peut imaginer qu'accumuler à du stress du quotidien, des objectifs qui ne sont pas clairs, des ordres et contre-ordres, hein, le lundi on me demande de faire ça, le mardi ben non, on me dit ben non, finalement on ne fait plus ça, on fait autre chose, ça crée du stress, c'est générateur de stress. Et puis au bout d'un moment, le corps craque aussi, ça peut arriver. Mais c'est vrai que de plus en plus de personnes cherchent du sens dans ce qu'ils font.
D'accord.
Voilà, je pense que c'est...
J'ai l'impression que c'est aussi une... Donc, quand on commence, comme tu disais, on accepte certains paramètres, et surtout ce que sont beaucoup de personnes acceptées, c'est une espèce d'inhibition. C'est-à-dire on n'exprime que certaines choses par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre... ce qui est demandé de nous dans notre rapport aux autres, et au bout d'un moment ça devient trop compliqué de ne pas pouvoir simplement dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, que ce soit à la hiérarchie ou à ses collègues. Et ce que j'ai remarqué également souvent, c'est que quand je discute avec des personnes qui travaillent par exemple au Canada ou dans d'autres endroits du monde, il y a moins forcément cette souffrance de ne pas pouvoir dire ce qu'on vit, ce qu'on pense. Et est-ce que c'est peut-être aussi lié peut-être à une culture française ou européenne qui fait que il y a la hiérarchie, on bride, on ne s'autorise pas à s'exprimer.
Clairement, je pense, oui, effectivement, il y a une culture française du travail qui est assez cadrée et qui laisse pas forcément, déjà, tout ce qui est bien-être au travail, c'est quelque chose qui apparaît depuis seulement quelques années finalement. On était vraiment dans une culture la culture du résultat, et c'est vrai que les personnes n'avaient pas les émotions n'avaient pas la place, en fait les émotions des personnes n'avaient pas la place en entreprise. Il fallait un petit peu se mettre en mode robot finalement, et puis quelqu'un qui exprime un moment ses émotions, c'est quelqu'un qui va être faible. Donc c'est vrai que c'est comme les gens qui font des burn-out, très souvent ces personnes-là ont honte encore aujourd'hui, parce qu'elles se considèrent comme faibles. Alors, il faut savoir que les personnes qui peuvent être sujettes d'épuisement professionnel ou de burn-out, c'est vraiment des personnes qui vont avoir justement une recherche de reconnaissance, mais qui vont être très investies, très pointilleuses. Voilà. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est ces personnes-là qui vont être justement le plus sujettes à faire des burn-out.
D'accord, parce qu'elles vont étouffer tout ce qu'elles peuvent ressentir comme vulnérabilité, comme faiblesse, pour faire bien, pour être acceptée, pour avancer.
Exactement, et après on
s'omatise. On se sature, ça finit par...
Après, ça explose, mais il y a des signes avant-coureurs qui permettent de reconnaître quand les personnes ne vont pas bien. Clairement, il y a à peu près 82%, il y a une étude qui a été faite en 2017, 82% des personnes sont sujettes au stress au travail. Donc c'est-à-dire que...
C'est en France ou c'est
en France? En France, d'accord. Ouais. Ça veut dire que... Alors stress, j'entends stress moyen et stress élevé dedans. Donc ce qui signifie que plus des trois quarts des personnes aujourd'hui sont stressées dans le cadre de leur travail. Donc ça s'explique de par différents facteurs. Il peut y avoir, je disais, les personnes qui n'ont pas de visibilité sur du moyen terme ou long terme. Ça peut être angoissant de ne pas savoir, je suis en CDD, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Il peut y avoir aussi les personnes qui manquent d'autonomie. Quand on a quelqu'un sur son épaule 24 heures sur 24 quasiment, ça peut être très compliqué. Les personnes qui sont en surcharge de travail, qui n'ont pas les ressources pour répondre aux tâches qu'on leur demande. Un collègue part en vacances, on me donne en plus ses tâches. Moi, au bout d'un moment, je dis oui parce que de toute façon, je me dis que j'ai pas le choix, alors qu'on a toujours le choix, mais je dis rien, et puis je laisse s'accumuler, puis je m'en sors plus. Donc je travaille le soir pour récupérer un peu d'avance sur mes dossiers, et c'est un cercle vicieux qui se met en route. Donc effectivement, le corps somatise aussi, et les signes avant-coureurs, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, donc le sommeil, clairement, les personnes qui vont avoir des problématiques de sommeil. Donc par problématique de sommeil, j'entends les personnes qui vont soit avoir du mal à s'endormir quand la petite roue se met en route, quand on pose la tête sur l'oreiller, Ça peut être aussi les personnes qui vont se réveiller à 4 heures du matin, les yeux comme ça, et qui n'arrivent plus à se rendormir.
Ouais, qui vont repartir dans la cogitation.
C'est ça, ouais. Donc ça, ça doit être un signe déjà sur lequel on se dit, bon, faut être vigilant. Il y a aussi les personnes qui vont déclencher des crises d'anxiété ou d'angoisse sur le chemin du travail, par exemple. Je sais que moi, à l'époque, ça m'est arrivé d'avoir cette boule au ventre, la fameuse boule au ventre, en partant travailler, rien qu'en pensant à tout ce qui m'attendait dans la journée et sur la semaine. Donc, il peut y avoir aussi les maladies de peau, hein, clairement. Eczéma, psoriasisme, ou si au niveau médical, il n'y a rien n'y fait en termes de crème, etc. Ça peut être le stress généré, alors par le travail ou pas, mais le stress.
C'est que la peau est intimement liée, ou c'est nerveux au niveau de l'embryon, c'est le même tissu.
Ouais.
Et est-ce qu'on n'a pas tendance à minimiser ça ? C'est-à-dire la personne, elle vit tous ses symptômes, mais c'est presque normal, parce que le boulot c'est dur, mais il faut y aller, il faut gagner sa vie, il faut travailler. Et on met de côté l'inconfort du matin, le manque de sommeil, et c'est ça qui fait que graduellement ça monte, et à un moment c'est le corps qui sonne d'alarme, et là on est cloué au lit, on ne peut plus aller au travail, c'est l'arrêt de travail.
On est effectivement dans une société où... Alors, les mentalités commencent à changer quand même. Mais c'est vrai que... puis moi, la première, je ne m'écoutais pas forcément. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie, c'est compliqué. Alors, je suis d'accord, on ne vit pas chez les bisounours, hein, mais par contre, des fois, on peut justement écouter un peu plus son corps, se mettre un peu plus à l'écoute de ses ressentis. L'intuition, il fait aussi. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose... sur lequel on peut aussi écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur et qui nous dit bon là t'en peux plus quoi, vraiment t'en peux plus, donc voilà, il faut savoir un peu s'écouter.
D'accord, et prenons le cas de figure d'une personne qui est dans un travail, qui est stressée et qui se sent trop fragile pour exprimer vraiment ce qu'elle ressent, que ce soit la hiérarchie, ses collègues. Elle sent qu'elle est trop à fleur de peau, c'est-à-dire dès qu'elle va essayer de s'exprimer, soit elle va s'énerver, soit elle va se mettre à pleurer.
Donc ça, c'est des signes clairement avant-coureurs.
Voilà, qu'elle est déjà bien saturée, elle commence à saturer. Donc comment cette personne peut faire pour commencer à travailler sur elle-même ou à libérer petit à petit cette expression qui ensuite va pouvoir améliorer le cadre de son travail?
Alors, dans certaines structures, plutôt les grosses structures, il peut y avoir des psychologues qui font des permanences. Il peut y avoir aussi une ligne téléphonique avec des psychologues en ligne, ce qui peut être une première approche. Après, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est si on n'arrive plus à gérer, c'est de se faire aider, clairement. Des fois, on peut se dire, ben oui, ça va aller, c'est une passade. Ok, on peut trouver de la méditation, on peut trouver des séances de sophrologie sur internet, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, je pense que c'est important à un moment de se dire, ok, là, il y a des signes qui montrent que je ne vais pas bien. C'est pas un signe de faiblesse d'aller se faire aider, d'aller consulter. Donc, ce qui est le plus important pour moi, peu importe la méthode qu'on va choisir, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment l'entente avec le praticien. Et il faut que la méthode convienne aussi. Mais c'est vrai que si on arrive dans un cabinet et qu'avec le thérapeute ça passe pas, ça va être compliqué de faire un travail efficace. Mais c'est de trouver sa méthode et puis d'aller parler de son problème, je pense que c'est important.
Alors en parlant justement de méthode, comment ça, pour les gens qui connaissent peu par exemple la sophrologie, l'hypnose, si on peut en dire quelques mots, et prendre justement le cas de figure d'une personne qui vient te voir parce qu'elle n'est pas satisfaite dans son travail, du stress de la vie de tous les jours, difficulté à dire ce qu'elle ressent, et somatisation au niveau du corps avec mal de dos et des maux de tête. Comment la sophrologie peut l'aider, par quel mécanisme ça fonctionne?
Oui, alors en fait, moi, une personne qui vient en cabinet, déjà je vais discuter avec elle pendant un moment, essayer de comprendre effectivement si la personne a beaucoup de symptômes physiques. Si elle me dit « oui, j'ai mal au ventre et puis je suis hyper tendue au niveau des cervicales », si y a beaucoup de symptômes physiques, on peut utiliser la sophrologie, effectivement. Moi, j'utilise la sophrologie et l'hypnose parce que ce sont deux méthodes qui sont vraiment complémentaires. La PNL, je la mets un peu à part parce que finalement, on l'utilise peu importe que ce soit dans n'importe quelle consultation. Mais par contre, oui, c'est si la personne a des souffrances physiques, la sophrologie va pouvoir l'aider justement à évacuer un peu toutes ces tensions physiques. La sophrologie, c'est une méthode qui date des années 60, qui a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelle Caicedo. Et en fait, ce brave monsieur a voyagé en Orient, en Occident, il a récupéré des méthodes qui fonctionnaient bien, il a fait sa tambouille et puis il a créé la sophrologie. Donc en fait, la sophrologie va va s'inspirer de différentes techniques. Donc on retrouve le yoga, le zen japonais, on retrouve un peu d'hypnose, un peu de méditation. Et en fait, l'idée de la sophrologie, c'est de venir relâcher le mental à travers le relâchement physique. On ne se rend pas compte, mais au quotidien, on vit crispé. Et l'idée, c'est de venir relâcher un peu tout ça et puis arriver à transmettre des outils. En sophrologie, c'est de la thérapie brève comme en hypnose. Donc l'idée, c'est pas qu'on se voit pendant 10 ans. Hein. C'est de faire entre 8 et 12 séances à peu près, de manière à acquérir et de manière à ce que moi, je transmette des outils à travers des petits exercices pour que la personne puisse, de manière autonome, les mettre en pratique dans le quotidien.
D'accord. Voilà. Donc ça va consister à amener la personne à prendre conscience de ses tensions.
Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de... Quand on n'est pas bien, qu'on est stressé, on n'est plus dans l'instant présent. Mmh. Et en fait, là, c'est vraiment revenir sur là, maintenant, tout de suite, l'instant T. C'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Donc c'est un grand mot pour dire c'est l'instant T, le retour à soi, à l'instant présent. Donc oui, on va amener en fait à travers... Il y a deux parties dans une séance. Il y a une première partie où en fait, on fait des petits enchaînements d'exercices qui sont basés sur la respiration contrôlée, sur le relâchement musculaire et la visualisation. On va amener à venir commencer comme un sas de décompression entre le quotidien et ce qu'on fait dans la deuxième partie. On lâche un peu. Et puis, deuxième partie de séance, c'est une visualisation qui est directement inspirée de l'hypnose, où là, la personne est assise ou allongée sur la méridienne, n'a rien à faire à part écouter et à suivre mes indications.
D'accord. Voilà. D'accord.
Et là, l'idée, c'est vraiment de, entre guillemets, tromper un peu le cerveau, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre le fortement pensé et le vécu. Donc, en fait, dans un état de conscience modifiée dans lequel j'amène la personne, si je la fais imaginer qu'elle est en train de faire la planche dans une eau turquoise aux Maldives, elle aura les mêmes sensations que si elle y était vraiment. Donc ça permet de relâcher.
Oui, et c'est pour ça que le cinéma, ça fonctionne si bien.
C'est ça.
En voyant les images, en voyant les expressions faciales, on ressent l'émotion des acteurs. Et effectivement, on n'a pas besoin de vivre l'expérience pour la ressentir.
C'est ça.
Donc, avant d'aller vers l'hypnose, j'aimerais juste qu'on insiste un peu sur ce point, parce que je pense que c'est un point fondamental pour aider beaucoup de gens, ce rapport entre le corps et le mental. Et bien souvent, une crispation au niveau du corps aggrave et consolide le stress au niveau du mental, et relâcher le corps aide grandement au niveau du mental.
Bien
donc
sûr.
Que ce soit un travail de sophrologie, de méditation, prise de conscience du corps, marcher, de yoga, tout ce qui va nous amener à être à l'écoute de notre corps, à mettre du mouvement, à respirer, à nous relâcher, souvent fait du bien au mental. Et bien souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que une personne pouvait ressentir un mal-être, et c'était parfois simplement un manque de sommeil, trop manger, accumuler une mauvaise posture. Commencer par résoudre ça, déjà, ça peut grandement améliorer le...
Bon, après avoir une hygiène de vie saine, on va dire, ça comprend faire du sport, manger équilibré, se coucher à des heures classiques, on va dire, avoir un rythme de sommeil régulier. Oui, c'est un tout. Et la sophrologie, c'est finalement tous les petits outils que je transmets, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans son quotidien pour éviter que le stress s'accumule. Voilà. Ça va être plus être, on entend souvent, c'est une philosophie de vie aussi, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans son quotidien. Et puis, c'est pas contraignant. Voilà. C'est quelque chose qui se fait respirer d'une certaine manière. Si je suis dans ma voiture et je suis en retard à mon rendez-vous, ça me stresse, j'ai la boule au ventre, je peux mettre en place cet exercice en particulier de respiration simplement pour de toute façon, je ne peux pas aller plus vite. Donc, voilà, c'est réussir à intégrer. Après, les personnes vont avoir des affinités avec tel ou tel petit exercice. Et puis, elles vont le pratiquer. J'ai des retours, des fois, où les personnes me disent quelques mois après, bah ouais, je continue. Et puis, ça me... Voilà. On n'attend pas que ça s'accumule et que ça explose pour évacuer D'accord. tout ça.
Oui, parce que je pense qu'il y a aussi cette notion de... que le bien-être ou le... Ouais, dans un état où on n'est pas stressé, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien. C'est-à-dire que c'est nos actes qui nourrissent le stress et nos actes qui bien nourrissent sûr. Le bien-être. Et c'est vrai que mettre en place une routine qui nous fait du bien, bah, effectivement, le bien-être ou le mieux-être s'installe petit à petit et peut bien durer sûr. Sur de longues périodes.
Ouais.
D'accord. Donc ça, c'est pour l'aspect sophrologie. Et au niveau de l'hypnose, comment ça peut fonctionner pour quelqu'un qui est stressé?
Alors, l'hypnose est un outil génial qui... dans certains cas, en fait, va beaucoup plus vite que la sophrologie. Alors, les deux sont complémentaires. Je peux les mixer sur un accompagnement, alors pas sur une seule séance, mais alterner en fonction des besoins. L'hypnose, en fait, si vous voulez, c'est... On est tous faits d'inconscient et d'un inconscient. Si je prends ça, par exemple, hop, ça, c'est mon inconscient. Et mon doigt, c'est mon conscient. En fait, toutes les épreuves de vie que l'on traverse, que ce soit des choses très compliquées ou des choses du quotidien, le conscient lui dit « Allez, on avance, on avance. » Et puis, de toute façon, bon, on n'a pas le choix, il faut avancer. Et en fait, l'inconscient, lui, un peu comme cette tasse, bah, chaque épreuve, en fait, l'inconscient, comme un réservoir, se remplit. Et puis, bah, de temps en temps, ça déborde. Alors, c'est des gens qui vont se mettre... à faire des crises d'angoisse du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. C'est des personnes qui vont avoir un sommeil hyper, hyper perturbé alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc l'idée avec l'hypnose, dans un premier temps, c'est de venir un peu vider ce réservoir, faire un peu du tri, simplement pour garder que ce qui est utile, confortable et léger. C'est parfois important, finalement, de prendre conscience que son inconscient, c'est 90% de soi, hein, quasiment, et 10% conscient. Donc, sans s'en rendre compte, peut-être il y a certaines choses dans le passé qui ont créé un mal-être, qui ont créé une connexion au niveau du cerveau, qui fait que ben, il y a cette connexion qui s'est mise en place, et puis moi j'ai grandi avec cette connexion qui est faite. Donc l'idée en hypnose, c'est simplement de venir vider les réservoirs et couper les câbles et les rebrancher d'une manière différente. Et
est-ce que ça doit passer par la conscience? C'est-à-dire, est-ce que ces associations, ces conditionnements qu'on a accumulé depuis l'enfance, par exemple, qui sont maintenant plus conscientisés, est-ce que ça, on doit voir? C'est utile de le voir au niveau conscience, comprendre que, par exemple, je ne suis pas à l'aise avec mon patron parce que quand j'ai grandi, j'avais un parent qui ne me laissait pas m'exprimer ou j'avais l'impression de besoin de me soumettre pour avoir son amour. Donc, est-ce que le fait de comprendre ça, c'est utile ou pas nécessairement? On peut débrancher ces connexions sans voir ce qui se passe vraiment?
Alors, pendant une séance en tout cas, pendant une séance, la personne peut avoir effectivement, lorsque l'on discute, je prends notamment le cas d'une personne qui n'est pas à l'aise en public, une personne qui est venue me voir, qui me dit « moi je ne suis pas du tout à l'aise sur la prise de parole en public » et notamment quand j'ai des personnes avec un regard charismatique qui me regardent lorsque je m'adresse à un public. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Ben non, franchement, je sais pas. Ok. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'hypnose, on peut remonter sur l'événement source. Et en fait, il s'est trouvé que cette personne, lorsqu'elle est en maternelle, donc elle le sait, hein, c'est sa vie, elle la connaît, mais elle n'avait pas forcément fait le rapprochement consciemment. Et en fait, lorsque cette personne était en maternelle, il y a une petite fille qu'elle embêtait dans la cour et la maman. Donc quand on a 3 ans, les parents, c'est quelque chose d'hyper impressionnant, hyper charismatique, est venue la gronder et elle a ce regard et elle s'est sentie figée. Voilà. Et en fait, tac, il y a une connexion qui s'est faite à ce moment-là et en fait, elle a grandi avec cette connexion et dès qu'elle prenait la parole en public, qu'elle avait un regard un peu charismatique sur elle, elle se figeait. Donc ça, c'est complètement inconscient. Et c'est à la fin où on en a discuté après la séance et effectivement, elle me disait... oui, c'est quelque chose, je le connais, ça fait partie de ma vie, mais je ne pensais pas que ça avait eu un impact à ce moment-là. Et 2 jours après, enfin quelques jours après, elle faisait une conférence devant tout le monde et aucun problème.
D'accord. Donc est-ce que c'était là le fait de voir ce lien qui allait brancher la connexion? Ou bien c'est comment
c'est
on
débranche
la connexion?
Je sais pas.
C'est un processus de voir ce qui se passe et lorsqu'on voit, automatiquement, l'un des résultats, c'est qu'il y a une dissociation pardon, entre ces deux événements.
En fait, sur ce point-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplement, quand je dis débrancher le câble, le rebrancher autrement, c'est simplement qu'on lui fait vivre ce moment. Mm-hmm. On remonte sur l'événement source et en hypnose, on lui fait vivre ce moment d'une autre manière. Donc en fait, on rebranche le câble d'une manière différente.
D'accord.
Et donc, pour elle, c'est OK pour la petite fille. Ouais, c'est OK pour la petite fille. Donc, et après, elle revient en étant plus sereine, plus soulagée par rapport à cet événement-là.
D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant parce que en méditation introspective, il y a une approche un peu similaire où on amène aussi une personne à plonger dans une situation à travers la pensée, en se projetant dans cette situation qui habituellement génère du stress en elle.
Oui.
Et bien souvent, lorsque la personne est stressée, c'est la confusion qui s'installe, c'est-à-dire qu'elle part dans les pensées, ça ressasse, ça se heurte à des murs, on n'arrive pas à trouver une solution d'une manière cognitive. Et le fait de garder un ancrage dans le présent, et donc lorsque cette personne est dans le présent, elle se perçoit en sécurité, elle sait qu'elle est en sécurité, elle est dans un cadre où elle est là, détendue, elle peut respirer, et elle associe cette capacité de sécurité avec cette situation qui auparavant la stressait.
Oui.
Et ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'après, quand elle va graduellement retourner hors de cette zone de confort, elle va pouvoir reprendre appui en sa capacité à se dire « bon, je suis là, je peux ressentir ma respiration,
oui,
ma posture, je peux m'exprimer ». Même lorsque je suis face à une personne qui me plaît, face à un public.
Ça, on le fait plus en sophro.
D'accord.
Ouais. Ça, parce qu'il y a un lien avec la corporalité, les sensations, etc. En sophrologie, on est vraiment sur l'association corps et mental. Mmh. Alors qu'en hypnose, bien que on sente un réel bien-être, hein, c'est hyper sympa l'état hypnotique, si on travaille sur du stress de manière classique, on va vraiment dissocier conscient et inconscient. Voilà. On est plutôt sur le mental, uniquement le mental, alors qu'au niveau sophrologie, on associe beaucoup le corps et la corporalité, les sensations qu'on a ici et maintenant.
D'accord. Dans toutes ces méthodes, ce qui est intéressant, c'est à expérimenter.
Ouais.
Que ce soit en hypnose ou en sophrologie, vivre la thérapie, vivre les soins,
c'est hyper important.
Et voir vraiment ce qui se passe en soi et comment ça peut nous aider.
Oui, je vois pas comment on peut...
Expliquer, voilà, tu expliques un peu en quoi ça consiste, mais après, le fait de vivre l'expérience, c'est...
Oui, c'est quelque chose qui est très différent. Alors, moi, j'aime bien quand je reçois des personnes qui viennent sans connaître, finalement, parce que c'est vrai que, notamment en hypnose, tout de suite, on a des croyances, on pense à Mesmer, l'hypnose de spectacle, ou ce qu'on voit à la télé... Alors j'explique que je ne fais pas faire la poule aux gens, clairement, que j'ai aucun intérêt à ça et que on est vraiment sur un état qui est hyper agréable et qui va permettre de débloquer certaines situations de manière un peu plus rapide peut-être que simplement par la parole. Donc je pense que c'est des outils qui sont très performants, hein, clairement. Après, ça peut aller en complément d'une psychothérapie, mais je prends souvent l'exemple d'un iceberg en fait. Une personne... je pense à une personne notamment qui est venue me voir parce qu'elle a subi des violences sexuelles. Et donc, elle m'explique ça dure 5 minutes. C'est quelques centaines, milliers de mots. Donc ça, c'est la pointe haute de l'iceberg. Sauf qu'en fait, derrière ces mots et ces quelques minutes, il y a des sensations, des émotions, il y a des images, il y a des paroles, des odeurs, il y a tout un tas de choses. Et ça, c'est la grosse partie en dessous de l'iceberg. Et finalement, en hypnose, c'est comme si on venait descendre, travailler directement dans cette grosse partie. C'est pour ça que ça va plus vite aussi. Parce que j'ai rien contre les psys, et c'est, au contraire, je pense que c'est très important de mettre les mots des fois sur certaines situations. Mais c'est vrai que l'hypnose peut permettre, sans avoir à parler, à rentrer dans le détail des choses, peut permettre de venir travailler sur...
Oui, parce qu'il n'y a pas de discussion. C'est la personne, elle t'écoute.
Ouais.
Elle est guidée, elle est hypnotisée, et elle n'a pas besoin d'exprimer
elle
ce qu'elle ressent.
Non. Alors après, moi j'aime bien débriefer un peu à la fin. Après, chaque praticien adapte sa façon, mais sa patte, on va dire. Moi j'aime bien discuter un peu avec les personnes après, parce que ça nous donne aussi des pistes de travail. Et puis, je force pas, par contre, si la personne ne veut pas s'exprimer. Voilà. Mais en général, j'ai jamais eu de refus particulier.
D'accord. Très bien. Alors, pour revenir au monde du travail, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des employés qui sont en période de stress, et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aussi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux employeurs aussi, pour vraiment créer un cadre de travail qui favorise
le bien-être des salariés,
bien-être et diminuer le stress.
Déjà, alors sur la première partie pour les salariés, je pense qu'on parlait d'hygiène de vie tout à l'heure. Ça peut être aussi se créer des moments où des moments à soi. Ça peut être n'importe quoi. Je suis fan de peinture, je prends des cours de peinture une fois par semaine, c'est mon moment à moi, où je vais courir. Voilà, réussir à se prendre un temps pour soi, simplement pour évacuer, d'une certaine manière, tout ce stress accumulé. Le plus important, c'est pas de le laisser s'installer, en fait, ce stress. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi peut-être faire de la sophro, typiquement, pour acquérir des outils qui vont me permettre finalement de traverser certaines périodes de stress de ma vie. Faire de la méditation, ça peut être quelque chose aussi qui permet de se recentrer. L'idée, c'est de sortir de cette société ou de ce travail où on doit toujours aller vite, donner plus, donner le meilleur de soi-même, toujours sourire dans le cadre de son travail, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont contraignantes et fatigantes à moyen et long terme. Donc c'est arriver simplement à se faire du bien. Donc ça peut être se prendre un bain, je sais pas, une fois par semaine, aller se faire masser, peu importe, mais revenir à des choses qui nous font du bien. Je pense que ça c'est hyper important, et apprendre des techniques pour arriver à lâcher prise aussi, et puis à évacuer de manière assez régulière.
Et spécifiquement au niveau du travail, dans le cadre du travail.
Dans le cadre du travail, alors moi dans les interventions que je fais en entreprise, je transmets des outils de sophrologie qu'on peut discrètement appliquer dans le cadre de son travail. Après, ça peut être aussi savoir dire non. Alors je sais que c'est pas facile d'aller voir son manager et de lui dire non, je récupère pas le travail de Martine qui est partie en arrêt maladie. Par contre, je pense que c'est important déjà de s'exprimer, donc c'est-à-dire d'aller voir son manager et dire voilà, là moi je n'en peux plus, j'ai pas assez de ressources, j'y arrive pas, donc il faut qu'on trouve une solution. Et en général, le manager, je pense pas qu'il, s'il est un minimum compréhensif, on peut essayer de trouver des solutions, voilà. Après, ça peut être effectivement aller en parler à ses ressources humaines si à un moment il y a besoin de s'exprimer. Ne pas s'isoler, en fait, ça c'est hyper important. Et entre collègues, ça peut être repérer un comportement qui change. Si on a un collègue qui est tout le temps jovial, qui du jour au lendemain, alors qu'on est sur un projet qui demande beaucoup d'investissement et qu'on voit son comportement se dégrader, s'il s'isole de plus en plus, s'il y a des tensions, s'il s'énerve lorsqu'il parle à ses collègues. Voilà, c'est des comportements à surveiller aussi. Ça peut être ça.
D'accord. Ouais. Ok, alors je vais te laisser continuer après pour les employeurs. Alors ce que j'entends et ce que je pense est important, c'est il y a cette notion que se dire que le problème est extérieur, ça n'est pas forcément. Parce que ça, c'est souvent. Parfois, on se positionne un peu comme victime, victime de ses employeurs, victime de l'entreprise, du cadre de travail, de la difficulté de l'économie actuellement. Et donc, effectivement, l'extérieur peut être une contrainte, mais là où on peut agir, ça peut grandement aussi impacter notre vie et l'améliorer. Comme tu disais, d'abord, une bonne hygiène de vie, prendre le temps de se faire du bien. Ensuite, au niveau du travail, il y a cette notion de prendre l'habitude d'exprimer, partie de dose, on va pas tout balancer, mais prendre l'habitude et avoir cette envie de dire les choses, parce que bien souvent c'est ça qui fait souffrir, c'est qu'on regarde en soi et on ne sort pas compris, il y a cette bien espèce de frustration qui s'accumule, donc s'exprimer. Et voilà, donc c'est cette notion qu'on peut agir, même si le cadre est difficile, on peut vraiment améliorer ce cadre de travail en agissant sur soi
Bien
et sur
sûr.
notre capacité à communiquer.
Après, de toute façon, forcément, il y a certains aspects sur lesquels on n'aura pas d'impact, on ne pourra pas agir. En tant que salarié, la structure et la stratégie d'entreprise, l'organisation finalement, on peut pas agir dessus. Par contre, déjà, si on arrive à travailler sur ce sur quoi on peut jouer, on va dire, c'est déjà un bon début. Puis il faut en parler, je pense que c'est important.
D'accord. Et pour les employeurs, quand tu fais
Des
des interventions,
interventions.
qu'est-ce que tu peux recommander?
Alors en fait, au niveau des entreprises, les mentalités commencent quand même pas mal à changer. On parle de qualité de vie au travail, on parle de prévention des risques psychosociaux, tout ce qui est RPS, on en parle quand même pas mal en ce moment. Ça change. Alors, il faut savoir que les employeurs ont une obligation légale de protéger les salariés, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Donc, en ce sens, il y a quand même pas mal de structures qui commencent à mettre en place des choses. Ça peut être déjà faire un audit pour mettre en place des plans de prévention au niveau des risques psychosociaux. Donc, les risques psychosociaux, c'est pas que le stress, hein, ça peut être les violences verbales, physiques, auxquelles peuvent être exposés les salariés. Les gens qui sont dans les guichets aux impôts, par exemple, peuvent être victimes de violences verbales de manière assez répétée qui peuvent avoir un impact derrière sur leur santé mentale. Donc, il peut y avoir tout ce qui est harcèlement. Hein. Harcèlement, il y en a malheureusement dans certaines structures. Ça peut être harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, peu importe. Voilà, donc toutes ces choses peuvent représenter aussi les risques psychosociaux de manière plus large, pas que le stress. Donc en fait, le fait de faire des audits et de mettre en place un plan de prévention, déjà ça met clairement les RPS, les risques psychosociaux, au même niveau que n'importe quel risque auquel peut être exposé un salarié. Donc ça déjà c'est important. Et puis après, les entreprises commencent, une fois qu'il y a ce plan qui est fait, commencent à implémenter le plan. Donc ça peut être revoir peut-être l'organisation du travail, revoir les tâches qui sont données en elles-mêmes, mais aussi revoir, mettre en place des choses. Je pense à une personne qui va être au guichet Orange, par exemple, dans les boutiques Orange, quand il y a 15-20 clients qui arrivent d'un coup. Voilà, c'est simplement mettre une file d'attente pour que les gens ne se présentent pas et qu'on ne se sente pas complètement agressé. Voilà, c'est mettre en place des choses au niveau organisationnel, mais aussi au niveau structurel et voilà,
D'accord, donc ça c'est
pour
surtout
améliorer.
comme tu disais au niveau structurel et tu parlais d'entreprise en tant que quantité, mais l'individu, le manager, le chef
Ouais.
d'entreprise, il y a souvent, où je pense qu'il y a cette idée qu'il ne peut pas se permettre de donner trop d'espace à ses employés pour justement, parce qu'il a peur qu'ils suivent pas les règles ou
Ouais.
qu'ils ne soient pas assez investis dans leur travail. Et peut-être toi qui a fait le lien entre les employés et les chefs d'entreprise ou leurs supérieurs, peut-être faire ressentir aussi à ces managers, à ces personnes qui sont dans des postes de responsabilité, que donner l'espace aux autres de s'exprimer, ça ne va pas les mettre en danger, mais bien
Bien
au contraire,
sûr.
ça risque ça va favoriser
La
la
productivité, clairement.
productivité, le
Clairement.
confort au travail.
Clairement, en plus, il y a même un côté financier, donc ça en général, ça intéresse,
Ça leur
ça
parle.
leur parle. Faut savoir qu'un salarié qui est mal au travail, qui est arrêté, donc il faut le remplacer. Les projets sur lesquels il n'intervient pas prennent du retard, ça coûte de l'argent. Les arrêts maladie, bah, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ça représente, il y a une étude qui a été faite l'année dernière. Je crois que c'est entre 10 et 13 000 euros par personne, le mal-être au travail, par salarié.
Ça coûte à l'entreprise,
Ouais.
d'accord.
Donc en fait, là où les mentalités changent, c'est que, alors moi et puis d'autres personnes, je fais partie de l'association Stop Burnout, en fait, qui intervient donc sur les mêmes problématiques. Là où les mentalités changent, c'est que finalement, il y a des prises de conscience de la part des chefs d'entreprise, dans le sens où, ben, en fait, c'est un investissement, mais finalement, c'est un investissement sur l'avenir aussi, qui me coûtera peut-être moins cher. Si j'investis dès le début sur le bien-être de mes salariés, plutôt que si jamais j'ai des arrêts maladie à tire-larigot pour des burn-out, donc sur des longues durées, etc. Voilà. Donc oui, après il y a beaucoup d'ateliers aussi qui sont mis en place. Moi je sais que c'est un format qui est bien apprécié, qui peuvent, donc ça peut s'adresser soit au manager ou directement à tous les salariés de manière générale, cadre ou non cadre, hein, peu importe. C'est simplement faire de la prévention, c'est-à-dire expliquer ce qu'est le stress, les mécanismes du stress au travail, expliquer quels sont les impacts sur la santé, et puis proposer aussi une partie pratique avec des petits outils pour arriver à évacuer et puis à s'apaiser au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, sur une heure et demie, deux heures à peu près. Et puis aussi, dans le cadre de mon activité, moi je donne des formations où là, il y a des formations pour les managers directement qui sont au contact des équipes pour pouvoir identifier les personnes en souffrance dans le cadre de leur travail. Les managers sont les personnes qui sont le plus au contact, hein, des salariés. Et donc forcément, s'ils notent un comportement qui peut paraître un peu bizarre, ça peut être bien justement d'enclencher peut-être une discussion. Et puis voilà. Donc on forme les salariés à détecter finalement les risques psychosociaux.
D'accord. Et donc, est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a, ça, il y a un début de changement au niveau de des mentalités et que c'est en train d'aller dans le bon sens,
oui. Oui, complètement, parce qu'on se rend compte que, en termes de, notamment sur le volet financier, hein, qui intéresse quand même pas mal les chefs d'entreprise, que je comprends complètement, on se rend compte que c'est un investissement, il y a un réel retour sur investissement à travailler sur l'anticipation de toutes ces problématiques-là.
D'accord. Oui, c'est vrai que aux États-Unis surtout, ça, ils ont commencé à proposer donc, des ateliers dans la méditation, le yoga, toutes ces choses-là. Donc, on peut voir ça d'un côté un peu cynique, en disant ils font ça pour optimiser le rendement, mais c'est pas grave, tant mieux. Si ça crée un meilleur cadre de travail, si ça aide les employés.
Après, alors il faut faire attention parce que dans qualité de vie au travail, il peut y avoir simplement le panier de fruits qu'on dépose à la cafétéria une fois par semaine.
Oui, le minimum viable.
Ou le baby-foot, ça clairement, il n'y aura pas forcément d'impact.
Un vrai changement.
Oui. Voilà. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'on met en place aussi, que ce ne soit pas gadget, on va dire, et qu'il y ait une réelle utilité et un réel investissement. Là, je fais aussi des séances collectives de sophrologie à raison d'une fois par semaine, ou des permanences, où je suis une demi-journée en entreprise et les personnes viennent à titre individuel sur des consultations privées. Donc, et ça, c'est clairement un sas dans lequel les personnes peuvent poser leur valise, on va dire, faire un travail sur eux-mêmes et repartir d'une manière beaucoup plus efficace, d'une manière beaucoup plus sereine aussi sur leur journée. Et puis, on sent qu'il y a un impact au niveau des arrêts maladie déjà et au niveau de la productivité.
D'accord.
Du climat social aussi, parce que les gens sont beaucoup mieux. Donc il y a un impact sur ça aussi.
D'accord. Donc si des personnes veulent te contacter, que ce soit des entreprises ou des personnes individuelles, j'ai vu que tu avais un site internet.
Complètement. Donc ça s'appelle www.timetobehappy.fr.
D'accord. Donc je mettrai le lien sous la page de cet épisode, sur la page de cet épisode. Et donc les gens peuvent t'appeler, prendre rendez-vous.
Bien sûr,
commencer
un
travail de...
Oui. Complètement. Alors que ce soit les entreprises, moi je me déplace. Ou alors, à titre individuel, si les personnes souhaitent des consultations, je fais aussi des consultations à distance, par visio. Donc c'est quelque chose qui peut être envisageable.
D'accord. Et donc ça, est-ce que... il y a une grande différence entre lorsque tu travailles à distance et lorsque tu travailles un à un? Je pose la question parce que c'est ce que je fais également.
Oui.
Des fois, ça m'arrive de travailler, que ce soit en méditation, en individuel, par internet ou on se rencontre physiquement. Est-ce que tu as senti qu'il y avait... Ben, je pense que bien entendu, c'est mieux quand la personne est là.
Oui.
Mais c'est intéressant aussi à distance.
Oui, complètement. Et puis, ça a été... En fait, je l'ai mis en place parce que ça a été une demande qui m'est arrivée. Donc... on a testé, alors oui, c'est pas exactement comme si on était là, mais par contre, s'il y a une bonne connexion et que la personne est dans un environnement très calme qui lui permet d'être vraiment, vraiment dans l'échange.
Et surtout que c'est surtout la voix qui impacte les gens, donc la voix, c'est, C'est toute important. La vibration qu'on émet, donc ils peuvent ressentir notre état d'être, notre présence, nos émotions. Et,
oui, c'est
et ça se communique très bien par internet.
Pour ça que je pense que, effectivement, le fait d'avoir une bonne connexion, c'est quand même.
Ça aide.
Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Lise.
Merci à toi.
De m'avoir accueilli et d'avoir participé à ce podcast. Donc, je mettrai tous les liens pour les personnes qui veulent découvrir ton site web. Et je pense que tu as des articles aussi. Parfois, tu publies quelques articles
En fait, non, j'ai une page Facebook et Instagram sur lesquelles je suis bien active. Et sur LinkedIn aussi. Je mets pas mal d'articles à la fois sur... qui peuvent intéresser des personnes à titre individuel, mais aussi tout ce qui est risques psychosociaux et QVT. Donc, je mets des choses à peu près 2 à 3 fois par semaine.
Très bien.
Donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux.
Tout cela. Un grand merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la méditation, où l'on a découvert comment moins stresser au travail avec Lise Mourier. Pour en savoir plus sur son travail, vous pouvez aller sur son site timetobehappy.fr. Je répète, timetobehappy.fr. Si vous êtes dans la région niçoise, vous pouvez consulter avec Lise. Vous faites une recherche Google Lise Mourier, M-O-U-R-I-E-R. Pour découvrir son cabinet. Je vous mettrai tous les liens sur la page de cet épisode. Ensuite, pour ceux et celles qui souhaitent suivre un stage de méditation en ligne et avoir accès à moi pour poser vos questions, il y a en ce moment le programme Apprendre à méditer. C'est un programme à suivre sur Internet où vous aurez accès à des exercices en audio et en vidéo. Ce programme s'adresse aux débutants qui souhaitent apprendre les bases de la méditation. Le programme est organisé en plusieurs parties, vous pouvez en faire une ou plusieurs selon vos besoins. Alors pour découvrir le programme, apprendre à méditer, il vous suffit de vous inscrire sur le lien que j'ai partagé en introduction du podcast. Donc le lien c'est taméditation.com, taméditation.com. Et si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez aller directement sur la plateforme Méditer aujourd'hui. En faisant une recherche sur Google, méditer aujourd'hui. Ça vous permettra d'accéder aux différents programmes proposés sur cette plateforme dans le cours Apprendre à méditer. J'aimerais d'ailleurs partager avec vous le témoignage de Nelly, qui a suivi ces exercices du programme. Nelly note: merci pour tous ces précieux conseils. Il faut vraiment que j'arrive à pouvoir m'ancrer en moi. Ma vision et perception des gens changent grâce à vous. Je les connaissais au fond de moi, mais ne prenais jamais assez de recul pour les analyser. Je me sens de plus en plus sereine et de plus en plus à l'écoute de mon moi intérieur. Merci beaucoup. Donc pour découvrir le programme Apprendre à méditer, un lien, taméditation.com. Un grand merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très bientôt.